Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour l'émission d'Amnesty International, ça sera Alain et Martine, moi-même, qui allons vous parler. Bonjour à tous. Bien, aujourd'hui, on va vous parler d'une campagne qui s'appelle « Les 10 jours pour signer », qui vient de se terminer et à laquelle notre groupe a activement participé. Alors, c'est quoi cette campagne « Les 10 jours pour signer » ? Eh bien, depuis 2001, c'est une campagne qui est mondiale. Ça, c'est très important, c'est dans le monde entier, et qui est menée par Amnesty International pendant 10 jours. Et il y a des pétitions qui sont signées, soit en ligne, soit sur papier. Par exemple, nous, on a fait signer, bien sûr, des pétitions sur papier, mais chacun pouvait en signer aussi sur Internet. Et ces pétitions visent toujours des personnes dont les droits ont été violés ou menacés. Et cette année, l'accent était mis particulièrement sur des situations de jeunes, des jeunes âgés de 17 à 30 ans. Donc notre groupe s'est mobilisé le 11 décembre en grande rue et a reçu un bon accueil qui a abouti à récolter environ 350 signatures. Donc c'est vraiment une belle action que l'on a poursuivie le samedi au Café Poésie du Cercle Laïque. Ce qui fait que pour Dreux, on a recueilli 462 signatures que nous avons déjà envoyées à la section française. Toutes ces signatures vont être rassemblées et présentées aux autorités responsables des différents pays concernés. L'année dernière, par exemple, on peut vous dire qu'il y a eu 5,9 millions de signatures qui ont été présentées dans le monde entier. Et en France, il y a eu 88 000 personnes qui ont été mobilisées pour cette campagne. Et on voudrait vous présenter quelques cas de cette action de solidarité. Et par exemple, Alain va nous parler d'une femme d'Iran.
Oui, bonjour à tous. Je vais vous parler de Yasa Aman Ariani. Alors cette dame est une actrice. Elle a les cheveux châtains, coupés courts. Elle marche, fleurs blanches à la main, dans le métro de Téhéran. Et il attend aux femmes qui l'entourent. La jeune iranienne formule un rêve, celui d'un avenir où toutes les femmes auraient la liberté de se vêtir comme elles le souhaitent. Cette scène, filmée le 16 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, est devenue virale, emblème du courage des femmes qui luttent pacifiquement contre les lois discriminatoires iraniennes. Mais ce geste poétique, courageux, n'a pas été du goût des autorités. Arrêté, Yasa Aman est alors détenue à l'isolement sous le contrôle des gardiens de la Révolution, tristement connus, pour avoir recours à la torture lors des interrogatoires. Très vite, sa famille se trouve menacée d'arrestation à son tour si la jeune iranienne ne se repent pas. Le verdict tombe en août 2019. Elle est condamnée à 16 ans d'emprisonnement. Grâce à une mobilisation de milliers de personnes dans le monde, elle a finalement été transférée en octobre dans la section des femmes de la prison d'Evin. Selon les Nations Unies, au moins 32 personnes, maintenant on pense qu'il y en a plus de 50, ont été arrêtées et 10 emprisonnées depuis 2018 pour avoir protesté contre le port du voile. Des chiffres représentatifs de l'intensification de la répression des actes de résistance pacifique par les tribunaux révolutionnaires iraniens ces derniers mois. Le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire et la forte récession économique qu'on a suivie dans le pays ont affaibli Hassan Rouhani et renforcé les ultra-conservateurs, explique Thierry Coville, chercheur à l'IRIS. Cette nouvelle radicalisation du pouvoir se traduit par un durcissement de la sécurité. On met tous les contestataires en prison, c'est pas bien.
Bien, merci Alain. Donc moi, je vais vous parler du cas de Nassu. C'est un jeune militant du Nigeria, du sud du Nigeria, qui est âgé de 25 ans. Alors lui, c'est un militant qui travaille, qui lutte pour le droit au logement. Alors Nassu et les habitants de son quartier ont été expulsés de force en novembre 2016 et avril 2017. Les autorités ont employé des bulldozers, mis le feu à leurs habitations et tirer à balles réelles sur les résidents. Au total, 30 000 personnes se sont retrouvées sans abri et 15 autres portées disparues. des milliers de familles continuent d'être séparées et restent privées de moyens de subsistance. Nassu, lui, c'est un garçon qui a beaucoup de courage et il n'a pas perdu la force. Malgré une balle qu'il a reçue dans son bras, il a rejoint une association militante et ce mouvement est bien déterminé à lutter pour faire respecter les droits au logement, pour que le droit au logement soit vraiment décent. Alors nous, à Amnesty, on demande qu'une enquête soit menée sur les expulsions forcées de Nassu et de ses amis et qu'ils soient réinstallés et que la réparation soit faite pour les outrages qu'ils ont subis. Et on demande aussi au gouvernement d'arrêter ces expulsions forcées. Voilà encore une action d'Amnesty pour la campagne des 10 jours pour signer. Et maintenant, peut-être, pour montrer que cette campagne est vraiment quelque chose d'efficace, tu vas nous parler, Alain, du cas d'une dame pour laquelle on avait les signatures avaient été rassemblées. C'est une femme qui s'appelle Gulzar, dont tu vas nous donner un petit peu justement la bonne... Ça s'est bien arrangé pour elle quand même.
Voilà, alors je vais vous parler de Gulzar. Cette femme habite au Kirghizistan. Alors, cette dame est une battante. En 2002, elle perd l'usage de ses jambes dans un accident de la route impliquant un conducteur en état d'ivresse. Gulzar se donne alors pour mission d'aider les personnes handicapées à vivre dignement et à se déplacer librement. Elle rencontre des responsables publics, organise des formations pour les chauffeurs de bus, incite à l'action sur les réseaux sociaux. Cependant, elle doit faire face à une double discrimination, en tant que femme et d'une, et en tant que personne handicapée et de deux. Grâce à son combat, le 14 mars 2019, est promulguée la loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui ouvre la voie à l'intégration de 180 000 personnes en situation de handicap au Kirghizistan. Alors cette dame avait mis un petit mot. Je suis reconnaissante pour le soutien et la solidarité qu'ont témoigné de très nombreux militants d'Amnesty International qui se préoccupent de nos droits, même s'ils viennent d'autres pays. Voilà.
Donc voilà, ça c'était une action de l'an passé. Merci Alain. Et comme on est à la fin de l'année, on essaye de se redonner un petit peu le moral en montrant encore d'autres bonnes, en vous donnant encore d'autres bonnes nouvelles. Alors une nouvelle du Maroc qui concerne une dame, encore une journaliste au quotidien Akbar Al-Yaoun. Cette journaliste s'appelle Adjar Raïssouni. Elle a été condamnée à un an d'emprisonnement pour avortement illégal. Et ce qui est très, très beau pour nous, c'est qu'elle a été remise en liberté le 16 octobre dernier. Mais il y a quand même un bémol à cette joie de sa libération, c'est qu'elle a été libérée grâce à une grâce royale. Mais cette grâce royale n'efface pas l'injustice dont elle a été victime. Donc, ni les déclarations de culpabilité rendues contre elle. On demande encore à Amnesty que ces déclarations de culpabilité soient annulées et effacées de son casier judiciaire. Donc ça, c'était encore une bonne nouvelle. Alain, tu vas nous donner une autre bonne nouvelle, s'il te plaît, qui concerne alors, l'Angola, par exemple.
Oui, si tu veux, oui, d'accord. Alors, en Angola, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, depuis l'arrivée au pouvoir du président João Lourenço, les autorités angolaises ont ratifié 4 traités importants pour les droits humains. Le pacte relatif aux droits civils et politiques et son deuxième protocole, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ceux-ci vont directement s'intégrer dans la législation nationale. Voilà une bonne nouvelle.
Voilà, et bien maintenant, on va vous parler un petit peu de nos activités locales à venir. Alors d'abord, le samedi 11 janvier, nous avons la réunion de la région Île-de-France, Sud-Ouest, dont on fait partie, nous, notre groupe de Dreux. Cette réunion est à Élancourt, à la maison des enfants, de 14h à 17h. Et cette rencontre permet des échanges entre les groupes de la région. Et on parle aussi d'une petite formation sur une campagne d'amnistie « Silence en armes ». Donc tous les sympathisants d'amnistie sont invités à cette rencontre régionale, qui est toujours un bon moteur de dynamisme pour la vie de nos groupes. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter sur notre boîte mail amnestie.dreux@gmail.com. On pourra organiser éventuellement un covoiturage. Une autre date, c'est notre prochaine réunion de groupe le 23 janvier à 20h, 5 rue des Éparges à Dreux. Donc si les droits humains vous intéressent, vous pouvez aussi venir assister à une de nos réunions, à cette réunion-là. Vous verrez ainsi comment participer à la vie du mouvement. Et on va déjà aussi annoncer notre prochain concert, mais qui c'est encore dans longtemps, mais le 29 mars prochain, à l'église Sainte-Ève, il y aura le concert annuel qui est toujours donné avec des musiciens bénévoles. Voilà.
Mesdames, messieurs, chers amis, j'en profite pour vous donner encore quelques petites nouvelles. Très courte. Ça concerne les irréductibles maires du samedi. Et ça se passe en Turquie. Istanbul, 25 août 2018. Comme chaque samedi, la police investit la place. Et comme chaque samedi, une femme aux cheveux poivre et sel, tout de noir vêtue, s'assied à même le pavé devant le square, un portrait de son fils en main. Sa silhouette robuste désigne la montagnarde, l'énergie de ses traits, sa détermination. Dans ses yeux se lit cependant une détresse. C'est la 700e fois qu'Emine Okak, 82 ans, s'assoit ici afin de réclamer vérité et justice pour son fils, un militant d'extrême gauche arrêté le 25 mars 1995. Alors, le samedi 27 mai 1995, entourée de quelques militantes, elle s'installe pour la première fois sur cette place. La semaine suivante, des femmes, mères et épouses ou filles, d'autres disparues se joignent à elle. Après 32 minutes d'un sit-in silencieux, elles lisent une déclaration à l'intention de la presse, chacune brandissant la photo de son disparu. L'opération se répète, leur nombre s'accroît au fil des samedis. Ça dérange, ça gêne, en référence aux maires de la place de Mai en Argentine. Les médias les appellent alors les maires du samedi. Et la touchante opiniâtreté d'Emine Okak fait d'elle la figure représentative et populaire d'un mouvement témoignant du fait qu'en Turquie, entrer dans un commissariat ne signifie pas que l'on en ressortira. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. De 1990 à 1995, plus de 400 personnes ont ainsi disparu. Les plus nombreuses comme Emine, de son fils, des Alévis kurdes, une obédience chiite, aussi tolérants en matière de religion et de mœurs que rétifs aux pouvoirs autoritaires qui se sont succédés depuis les années 80. Voilà. Alors ces dames disent une chose très très simple. Vous nous les avez pris vivants, rendez-nous-les vivants. Merci. C'était les maires du samedi.
Voilà.
Vous pouvez retrouver toutes ces nouvelles dans la chronique d'Amnesty International, un petit journal qui est édité tous les mois et qui donne beaucoup d'informations sur les droits humains dans le monde. Merci.